Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est de retour en ce mardi 14 octobre. C'est bon pour la santé qui débute pour les 30 prochaines minutes sur Canal M. Bien, au Québec, c'est 29,7% de la population générale qui souffre d'une maladie chronique. C'est un chiffre qui a été mentionné par l'Institut de la statistique du Québec. On entend quoi par maladie chronique? Troubles cardiaques, arthrite, diabète. Ces maladies sont responsables de 60 % des décès. Ce sont, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la toute première cause de mortalité dans le monde. Mais même si on vit avec une maladie chronique, on peut vivre en santé. Et je vais en parler avec Isabelle Ducharme, elle qui anime un atelier qui s'intitule « L'ABC de l'autogestion en soins ». Et elle est formatrice et animatrice au programme d'autogestion des maladies chroniques du Centre universitaire de Santé McGill. Ça, c'est en deuxième partie d'émission. En première partie d'émission, ben, vous le savez, le web, les technologies, tous les gadgets électroniques, ça prend beaucoup de place dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. Le domaine de la santé n'y échappe pas. On peut observer une grande, grande montée de popularité des applications mobiles en santé. Et ça peut être difficile de se dépatouiller dans cette multiplication d'applications. Je vais en parler. On va tenter de démêler tout ça avec Nathalie Cléroux, elle qui est bibliothécaire en santé à l'Université de Montréal. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Votre présence est déclenchée, si je peux m'exprimer ainsi, par un article qui a été signé par Roxane Léouzon. C'était dans le journal Métro le 22 août dernier. Et où on pouvait lire que, d'après un site états-unien, un site américain, la Food and Drug Administration, c'est aux États-Unis, hein, donc, on pouvait lire que, en fait, ce site-là indiquait que 50 millions d'utilisateurs à travers le monde auront recours à une application mobile en santé d'ici 2015. Et on pouvait lire également, et là je vous cite Nathalie Cléroux, rien d'inquiétant,
oui.
C'est le Far West, la grosse majorité des applications ne sont pas approuvées par un organisme gouvernemental. Donc, on va tenter de dépatouiller ça avec vous parce que c'est votre opinion, ça. Il y a beaucoup d'applications mobiles en santé de plus en plus, mais en même temps, très difficile pour le citoyen de faire des choix qui sont adéquats, des choix pour sa santé, finalement.
Ben oui, en fait, ça rejoint un peu la multitude de sites web aussi qui parlent de santé. Donc, il n'y a pas non plus d'organisme qui va régir ça. Alors, le consommateur, lorsqu'il veut se tourner vers une source fiable pour trouver l'information sur sa santé, bien, il doit justement se poser des questions importantes quant à la fiabilité de l'information qui se trouve sur ces sites-là. Et en fait, c'est la même approche que vous devriez, que tout le monde devrait utiliser lorsque vient le temps de choisir une application mobile en lien avec sa santé.
Commençons par le début pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers avec ce sujet-là. C'est quoi une application mobile?
Donc, c'est un programme téléchargeable qui peut être soit gratuit ou payant. Donc, vous allez le retrouver là, sur les sites comme le App Store ou si vous utilisez un téléphone Android, il y a une plateforme Google Play qui vous propose des centaines de milliers d'applications mobiles. Et là-dedans, il y en a une certaine proportion qui sont en santé. Donc, ces programmes-là sont adaptés aux technologies mobiles. Et il y en a là, dans toutes sortes de catégories. Donc, bien sûr, il y a des jeux, il y a du commerce, il y a toutes sortes d'interactions avec différents services qui sont possibles. Par exemple, un festival va proposer sa propre application mobile pour que vous soyez au courant de toute sa programmation. Donc, pensez à toutes les infinies possibilités d'interaction avec des services, des organisations, et il va y avoir une application pour ça.
Mm-hmm. On en entend souvent parler, bon, on le sait, il y a de plus en plus de gens qui aiment la course à pied, donc le jogging. Et ça a vraiment sa place beaucoup chez les joggeurs, les applications mobiles en santé, c'est-à-dire pour calculer ses distances, pour calculer, bon, parfois les calories dépensées, le nombre de kilomètres, tout ça. Donc, ça, si on veut illustrer pour les gens à la maison, mm-hmm. ça pourrait ressembler à ça. Il y en a pour la course à pied, mais il y en a pour d'autres types. Oui. De catégories ou d'activités?
Ben oui, parce que vous en avez, entre autres, pour... en fait, il y en a... J'essaie de regrouper ça en catégories assez simples. Par exemple, il y en a que c'est plus des journaux de bord, un peu comme on parlait pour journaux de bord, pour faire un suivi de son activité physique. Mm-hmm. Mais aussi, les gens peuvent utiliser ces applications-là pour tenir compte des différents symptômes d'une maladie. Par exemple, suivre l'évolution de vos émotions. Ou encore, un aide-mémoire, là, si vous avez des médicaments à prendre, mm-hmm. bien, l'application va vous indiquer, c'est le temps de prendre tel comprimé. D'autres types de catégories, vous allez avoir aussi des rappels qui vont vous être envoyés. Par exemple, si vous voulez cesser de fumer, bien, vous allez recevoir des encouragements là, via votre téléphone cellulaire. Donc, c'est un peu comme un soutien virtuel. Ou encore, bien, il y a beaucoup d'applications qui vont vous fournir une information utile. Par exemple, si vous êtes diabétique, bien, il y a des applications mobiles qui vont vous indiquer la valeur nutritionnelle de certains aliments dans certains restaurants. Donc, ça va vous aider à faire des choix en fonction de votre maladie. Ou encore, vous allez avoir aussi d'autres applications qui vont vous aider, selon vos symptômes, à identifier une maladie potentielle. Et là, il faut faire bien attention. Je suis certaine qu'on va en parler tout à l'heure. Ça ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé. Ou encore, un autre exemple d'information utile, comme moi, par exemple, je suis secouriste en milieu de travail. Donc, sur mon téléphone, j'ai une application de premiers soins qui m'indique quoi faire en cas d'urgence, là, si je ne me rappelle pas.
Un rappel mémoire.
C'est
ça,
un rappel mémoire aussi, là, mais quoi faire, là, par exemple, s'il y a un tremblement de terre dans les prochaines minutes, là, je vais sortir mon téléphone.
je me sens en sécurité, soudainement.
C'est ça.
Aussi, une application qui va analyser la profondeur et la qualité du sommeil. Moi, j'ai téléchargé, oui. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais je l'ai téléchargé. J'ai vu ça, une amie sur Facebook qui utilisait ça, qui publie d'ailleurs ses résultats et je trouvais ça fascinant, donc je l'ai téléchargé pour l'essayer éventuellement. Il y a ça aussi dans l'avènement du web, oui. Des médias sociaux, c'est que les gens ont des applications mobiles et c'est facile d'en parler, d'un petit peu étaler nos résultats et de créer beaucoup d'enthousiasme.
Oui, mais il faut aussi faire attention à la confidentialité des données. Qu'est-ce que vous êtes prêt à partager sur votre application mobile, parce qu'il faut toujours lire les petits caractères. Lorsque
ce qu'on fait jamais.
C'est ça. Lorsque vous acceptez les conditions d'utilisation, qu'est-ce qui vous dit que l'information sur les médicaments que vous prenez ne sera pas partagée avec une compagnie pharmaceutique, par exemple? Donc, mm-hmm. pour certaines organisations, toutes ces données-là que vous entrez de façon anodine sont très précieuses puisque ça évite parfois de faire des sondages ou des études cliniques ou peut-être pas des études cliniques poussées, mais mm-hmm. quand même, les données que vous fournissez en lien avec votre santé ont une valeur. Il faut bien s'assurer que ce que vous allez partager, bien, c'est dans des bonnes mains.
Ouais. Nathalie, est-ce que ces informations-là pourraient être utiles pour les compagnies pharmaceutiques?
Ben oui, par exemple, si vous entrez, par exemple, votre journal de bord, votre prise de médicaments, peut-être que c'est sûr que certaines compagnies seraient intéressées à savoir c'est quoi l'observance que vous avez. Est-ce que vous le prenez fréquemment? Est-ce que vous le prenez aux heures prescrites, etc.? Donc, c'est important donc de s'assurer si on veut utiliser ce type d'application-là, mm-hmm. de savoir exactement c'est qui l'auteur de l'application, qui est derrière cette application-là. Mais même parfois, c'est pas suffisant parce que rien qui empêche, par exemple, une compagnie pharmaceutique d'acquérir l'auteur de l'application et d'utiliser les données qui ont été accumulées pendant ce temps.
Donc ça, c'est une bonne question à se poser quand on veut faire le tri, se démêler. Qui est derrière? C'est une compagnie pharmaceutique, peut-être qu'on met un haut là, si c'est un médecin ou peut-être un hôpital. Et on peut penser au Centre Fernand Séguin mm-hmm. avec le docteur Réal Labelle qui sont en train, là, moi, j'ai hâte de les recevoir pour en parler, de créer une application psy-assistance, là, justement, pour aider les gens qui sont en détresse psychologique. Donc ça peut être plus rassurant, j'imagine. Oui. Ça vient d'un médecin, ça vient d'un centre de recherche. Mm-hmm. Mais dans quel cas ça peut être un petit peu plus inquiétant?
Bien, si, en fait, vous devriez vous poser la question à chaque fois que vous cherchez de l'information en santé sur le web, mais cela s'applique aussi pour les applications mobiles. Posez-vous la question, qui est derrière cette application-là? Est-ce que cette personne-là a des qualifications? C'est quoi son autorité, finalement? Est-ce qu'elle s'identifie? Est-ce qu'il y a des révisions qui sont faites par des professionnels? Alors, c'est sûr que, par exemple, il y a au moins une cinquantaine d'applications mobiles pour aider les gens à cesser de fumer. Mais moi, lorsque va venir le temps de faire mon choix, ben, je vais peut-être me tourner vers une application qui a été faite par l'Association canadienne du cancer plutôt que vers un site qui ne donne aucune information quant à sa source. Mm-hmm. Donc, c'est à vous de faire le choix lorsque vient le temps de choisir votre application, d'essayer de voir qui est derrière tout ça. Alors, si c'est une autorité compétente, une agence gouvernementale, un site universitaire, bien, à ce moment-là, vous êtes déjà un peu plus rassuré quant à ce qu'il va arriver aux données qui vont être compilées par l'application.
Nathalie, on a soulevé tout à l'heure la préoccupation liée à la confidentialité. On voulait également revenir sur cette génération peut-être d'hypochondriaques qu'on est en train de créer ou bon, de générer, c'est-à-dire de voir des symptômes, de dire « Oh, j'ai mal à la tête, est-ce que c'est un tumeur ou quoi que ce soit » quand ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est un petit peu exagéré.
Bien, effectivement, une application mobile, en tout cas, à mon opinion, ça serait que vous vous en servez comme outil pour gérer certains aspects de votre santé, mais bien sûr que ça ne remplace jamais la vie éclairée d'un professionnel de la santé. Ça peut être un soutien, même qu'aux États-Unis, il y a certaines applications mobiles qui sont maintenant prescrites par des médecins. Entre autres, une application pour gérer son diabète, donc à quel moment on doit prendre ses médicaments et tout ça. Donc, ces applications-là, avant que ce soit, c'est pas encore arrivé ici chez nous, mais bien sûr qu'un jour, peut-être qu'un médecin va vous prescrire justement une application qu'il aura déterminée comme étant fiable. Et là, bien là, où est-ce qu'on en trouve des applications fiables? Je vois venir la prochaine question. Bien, il n'y a pas vraiment d'autorité, si vous voulez, là, qui va évaluer toutes ces applications-là en santé. Là, c'est comme... C'est comme essayer d'arnacher les sites web. C'est à peu près... C'est très difficile à faire. Mais par contre, on peut se fier peut-être à certains sites web qui vont justement évaluer ces applications-là. Souvent, ça va être des médecins qui vont évaluer ces applications. Donc, je peux peut-être vous donner deux sites web intéressants.
Oui, bien sûr. On pourra les mettre sur notre site, d'ailleurs.
Alors, c'est le site dmdpost.com. Ça, c'est des applications mobiles en français. Et en anglais, il y a imedicalapps.com.
Revenons à justement ce que gère ou pas le gouvernement. Santé Canada, qu'est-ce que Santé Canada dit par rapport aux applications mobiles en santé?
Bien, il ne dit pas grand-chose. J'ai fait une recherche hier et j'ai cherché l'expression « application mobile » sur le site web de Santé Canada et je n'ai pas trouvé d'indication claire. Ce qui se fait en ce moment aux États-Unis, et j'imagine que le Canada va suivre puisque la directive de la Federal Drugs Administration est sortie seulement l'année dernière. En fait, on se limite vraiment aux applications qui sont considérées comme étant une extension d'un instrument médical. Donc, des applications qui vont servir, par exemple, à compiler des données acquises par un instrument médical. Et donc, toutes les autres applications, donc que ce soit des applications, bien, par exemple, pour faire la révision en anatomie pour un étudiant en médecine ou encore les applications d'exercice, tout ça, bien, ça ne correspond pas à la définition, justement, de ce qui va être régulé par les organismes comme Santé Canada. Donc, Santé Canada fait l'homologation des logiciels qui sont reliés à des instruments médicaux, mais non pas à toutes les autres catégories d'applications là, dont on a parlé beaucoup là, depuis le début de notre discussion.
Je ne l'ai pas sous les yeux, malheureusement. Je l'ai oublié à mon bureau. Mais dernièrement, on pouvait lire que pour tout ce qui est l'examen des oreilles, il y avait une nouvelle application que les médecins pouvaient carrément brancher à leur téléphone intelligent pour tout ce qui est l'observation, la santé des oreilles. Ça serait perçu comme un instrument médical.
C'est ça. Donc, par exemple, si vous utilisez votre téléphone pour... qui serait couplé à un, attendez un petit peu, je ne suis pas sûre du terme, sphingomyomètre, je pense, pour la prise de pression artérielle. Ça, c'est un exemple. Mm-hmm. Ou encore une pompe à insuline qui serait régulée par une application mobile. Donc, dans ces cas-ci, bien, il y aura une régulation qui sera faite là, par, dans, aux États-Unis, c'est la FDA. Et ici, au Canada, ce serait Santé Canada.
Mais je me dis, ce qu'il y a de fascinant, et là, on a parlé beaucoup du citoyen, du patient, du grand public, Nathalie, mais il y a toute la communauté scientifique, les médecins. Pour eux, ça change beaucoup leur pratique. Les pharmaciens également, pharmaciens, oui. Médecins, peut-être les infirmières également. Ça change leur pratique et leur contact au public.
Bien oui, de plus en plus, parce que la génération de jeunes médecins a grandi avec l'Internet et avec les téléphones cellulaires. Donc, déjà, il y a beaucoup d'applications dites de productivité, par exemple la prise de notes, la lecture d'articles de littérature scientifique, des nouvelles médicales. Donc ça, c'est déjà beaucoup intégré chez les jeunes médecins, les jeunes pharmaciens, par exemple, à leur pratique. Donc, ils consultent régulièrement sur leur téléphone, où ils prennent des notes directement sur leur téléphone là, pendant leur pratique. Et ils s'en servent aussi, il y a des applications pour l'aide au diagnostic, mm-hmm. Il y a des applications par spécialité médicale, donc en radiologie, en cardiologie, des calculateurs et beaucoup d'applications aussi qui vont vous donner de l'information sur les médicaments. Donc, c'est quoi les contre-indications, les effets secondaires, etc. Donc, en fait, toutes ces informations-là qui devaient auparavant être condensé dans un petit livre de poche là, qui embarrassait les sarraux, bien maintenant, elle est contenue dans les téléphones cellulaires des professionnels de la santé.
Je me demande, et peut-être que vous le savez, si les médecins plus âgés, plus expérimentés aussi, ça va de soi, sont pas un peu dépassés par cette technologie-là et justement quand ils reçoivent des patients dans leur cabinet, de se dire « OK, je ne sais pas trop comment gérer ça, je ne connais pas, moi, ces applications-là. Je réagis comment? »
Oui, bien, je ne peux pas parler à leur place, mais c'est effectivement une réalité auxquelles les professionnels de la santé doivent...
Sont confrontés
ouais. Aujourd'hui. Les gens, de plus en plus, vont consulter des sources d'information sur le web et vont arriver avec un autodiagnostic
Docteur,
qui est
parfois... je pense que j'ai ça.
C'est ça, qui est parfois tout à fait... souvent même, sûrement tout à fait erroné.
Oui.
Donc, je pense que oui, c'est bien que les patients soient plus au fait des différentes... de leur maladie, par exemple. Et c'est en fait... par exemple, à l'Université de Montréal, il y a le bureau partenaire où, justement, on enseigne aux futurs médecins comment, justement, intégrer les patients et les autres professionnels de la santé. C'est sûr, tout ça, c'est interdisciplinaire, mais on intègre les vues du patient dans la prise finale de décision. Parce que très souvent, les patients vont être très au fait de leur condition médicale et ils vont pouvoir justement avoir une interaction participative là, dans les décisions concernant leur santé.
Et ça change non seulement le travail du médecin, mais ça change aussi la relation patient-médecin.
Oui, parce qu'il y a plusieurs applications justement qui vont favoriser cette communication-là entre le patient et le professionnel de la santé. Donc, un exemple de ça, il va y avoir des applications que vous allez pouvoir avoir, que le médecin va pouvoir avoir sur son iPad ou sa tablette et qui va présenter, par exemple, une des planches anatomiques. Et on va pouvoir, donc, en expliquant au patient quelle sera l'intervention chirurgicale, par exemple, qui s'en vient, bien, on pourra faire des dessins, des flèches surlignées, donc, et donc expliquer de façon beaucoup plus visuelle qu'est-ce qui attend le patient, par exemple, cette journée-là, lors d'une opération.
Wow! Bon, vous allez peut-être prêcher pour votre patrie, Nathalie Clairaut, mais est-ce qu'elles sont devenues indispensables, les applications mobiles en santé?
Bien, moi, je suis un cordonnier mal chaussé. J'en utilise pas beaucoup.
C'est intéressant
de savoir. C'est ça, parce que bien, j'ai aussi la chance d'être en bonne santé.
Ouais.
Par contre, je vois beaucoup l'intérêt qu'il peut y avoir pour les professionnels de la santé et les futurs professionnels de la santé aussi. Alors, c'est pour ça que nous avons développé un guide sur ces applications mobiles-là à la Bibliothèque de la santé de l'Université de Montréal. Bien sûr, notre première clientèle, ce sont nos étudiants, mais dans le guide, on a quand même un onglet réservé aux applications pour les patients parce que, dans le fond, c'est bien que nos futurs professionnels de la santé soient aussi au courant des différentes applications mobiles qui sont axées pour l'usage par les patients. pour que, justement, ben, ils soient sensibilisés, justement, à cette montée là, de l'utilisation des applications mobiles en santé.
Il y a une adresse pour ce guide-là?
Oh mon Dieu, oui.
Est-ce que c'est le guide.bibumontréal.ca? Ça ressemble... Oui. On la glissera parce qu'elle est quand même compliquée.
Oui, c'est assez compliqué.
C'est compliqué, mais elle sera sur notre site et c'est un guide, je l'ai consulté, bien sûr, il est très, très bien fait. Nathalie Clairoux, vous êtes bibliothécaire, en santé à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, c'était vraiment très, très intéressant.
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Marianne.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Quand on vit avec une maladie chronique, et c'est autant pour les personnes atteintes que pour les proches, ça a beaucoup de répercussions sur notre quotidien, sur notre santé mentale aussi, tout ce qui est sur le plan de la qualité de vie, les limitations aussi que ça amène, autant pour nos activités, autant aussi le système de santé qui n'est pas toujours adapté à nos besoins, à notre condition. Et ça a des impacts majeurs. Par contre, il y a des choses qui sont évitables. Et si l'on apprend tranquillement à modifier notre mode de vie, parfois, la qualité de vie peut être plus agréable. Et c'est ce que nous apprend cet atelier qui s'intitule l'atelier « L'ABC de l'autogestion en soins, vivre en santé avec une maladie ». Chronique. Isabelle Ducharme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice, animatrice au programme d'autogestion des maladies chroniques du Centre universitaire de santé McGill, et ça depuis quelques années, Isabelle?
Oui, depuis 2008, en fait. Le programme comme tel au Québec existe depuis 2007. Moi, je l'ai suivi et maintenant j'anime depuis 2008. Je vous avoue que c'est un bonheur et c'est à la fois un peu égoïstement que je le fais parce que moi, ça me fait du bien. Quand je le fais, je vois les gens se transformer devant moi et j'apprends à chaque fois. Donc, c'est donnant-donnant.
Et vous êtes là parce qu'il y a un atelier qui s'en vient en novembre.
Effectivement, la semaine du 3 novembre, il y aura des ateliers qui débuteront parce que ce qui est bien aussi de ce programme, c'est qu'il est offert à différentes périodes de la journée et de la semaine. Donc, on doit se présenter une fois par semaine pendant 6 semaines pour des ateliers de 2h30, mais on n'est pas limité à une fois par semaine le mardi matin. Il y a différentes plages horaires selon les besoins de chacun. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à se lever le matin et il y a des gens qui sont moins performants le soir. Alors, c'est quand même bien là, de savoir qu'on n'est pas limité non plus dans le moment où c'est offert. Donc, on sait que les gens qui ont des maladies chroniques ont souvent des santé plus précaires, oui. des rendez-vous médicaux fréquents, etc. Donc, de savoir qu'il y aura certainement une des plages qui pourrait être plus appropriée pour nous, c'est intéressant aussi.
L'atelier, Isabelle, s'adresse bien sûr aux gens qui souffrent ou qui vivent avec une maladie chronique, à leurs proches aussi?
Oui, effectivement. Donc, quand on parle de maladie chronique, dans ce qui est diagnostiqué, ça va être de l'asthme aigu, de l'arthrose, des douleurs chroniques, le diabète, maladie de cœur, sclérose en plaques, cancer. Donc, c'est très, très, très varié. Mais comme vous le disiez très bien en introduction, ça affecte souvent aussi le conjoint, la conjointe, les enfants. Donc, oui, on invite les gens qui sont des gens qui vivent avec des gens qui ont des maladies chroniques à suivre le programme parce que ça peut certainement aider à comprendre ce que l'autre vit. Et donc, nous donner des outils aussi sur comment mieux appréhender tout ça ou comment moins, en fait, le, moins être inquiet devant cette situation-là, mais plutôt se sentir là, équipé. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un programme d'autogestion. Donc, c'est un programme où on donne toutes sortes d'outils que la personne doit elle-même utiliser au moment opportun. Ça se peut très bien que je vous parle dans l'atelier, on parlera autant du besoin de rester, de continuer à bouger, de gérer la fatigue, le organiser un peu plus ses journées pour être plus fonctionnel.
Les émotions.
Oui, gérer les émotions, gérer ses rendez-vous chez le médecin, gérer comment on va parler de notre douleur avec notre entourage, comprendre quand on a des émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc, tous ces outils-là, bien, peut-être qu'en ce moment, j'ai besoin de comprendre comment gérer ma tristesse. Mais peut-être que j'ai pas besoin pour l'instant de mieux parler avec mon médecin parce que je le vois une fois par année. Mais peut-être que d'ici 6 mois, je vais avoir des problèmes et je vais devoir retourner voir mon médecin. Mais comment je vais me préparer pour bien m'assurer qu'il m'entend bien? Ben là, je pourrais retourner dans les livres, dans les références qu'on m'a données sur comment mieux me préparer.
Isabelle,
c'est intéressant.
Le temps file rapidement et ensemble, on avait déterminé que ça serait intéressant que vous nous proposiez une petite simulation de ce qu'on peut vivre à travers cet atelier-là.
Effectivement, puis je vous dirais que la plus simple, c'est la technique de respiration. Vous savez, quand on est stressé, quand on a des malaises, on dirait qu'on oublie de respirer. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander de le faire en même temps que je vais faire l'exercice à nos auditeurs qui écoutent. Donc, la première des choses, c'est de vous assurer que vous êtes assis bien à l'aise, que vous êtes confortable et que vous relâchez les épaules. Les épaules et la mâchoire sont souvent là qu'on concentre notre stress. Vous mettez une main sur l'abdomen, juste au-dessus du nombril et sous le sternum, et l'autre main sur le haut de la poitrine. Ensuite, vous inspirez par le nez. Si jamais le nez est bloqué, on inspire par la bouche. En inspirant, vous devriez sentir votre abdomen se soulever. Si votre abdomen ne se soulève pas, c'est que votre respiration n'est pas assez profonde. Ensuite, pincez légèrement les lèvres comme si vous vous alliez siffler. Pendant que vous expirez lentement par la bouche à demi fermée, tout en contractant doucement les muscles abdominaux. Il faut laisser l'air sortir lentement sans forcer, et ça devrait prendre le double de temps pour expirer par rapport à ce que ça vous a pris pour inspirer. Parfois, on peut se sentir un peu étourdi parce qu'on n'est pas, on n'a pas l'habitude de se concentrer comme ça sur notre respiration, mais je vous garantis que si vous faites pratiquer ça pendant 2 ou 3 fois,
Isabelle,
de suite, vous allez être à l'aise.
Merci beaucoup. On glissera le site sur le